Cher lecteur, bonsoir. Bonsoir David.
Bonsoir.
Bonsoir Yves.
Bonsoir Anouk.
Alors ce soir, on est ravis de se retrouver autour d'un livre où pour une fois, je pense qu'on est tous les trois d'accord. Il nous a vraiment plu. Il s'agit du dernier roman de Bernard Schlink. Bernard Schlink qui nous revient avec le livre La Petite Fille, publié aux éditions Gallimard. Alors ça faisait 25 ans qu'on attendait depuis le liseur, son nouveau roman, il est enfin sorti. Alors quelques mots avant tout sur Schlink. Schlink est non seulement écrivain, mais il est juriste avant d'être romancier. C'est une particularité qu'il partage entre autres avec Karine Thuil et Philippe Sands. Il a commencé sa carrière d'auteur par une série policière, la série Selb, et publiera par la suite plusieurs romans, dont Olga, Amour en fuite, l'autre, Mensonge d'été, et surtout Le Liseur, ce livre qui a été ensuite publié en France en 1996, qui était partiellement autobiographique et qui était devenu un best-seller puisqu'il a été traduit dans 37 langues. Alors tout au long de sa carrière, Bernard Schlink a reçu plusieurs prix littéraires et donc nous revoilà avec ce nouveau livre, un livre particulièrement touchant. Alors je vais faire le pitch en quelques minutes. Il s'agit d'un personnage central, Caspar, qu'on découvre, qui est libraire. Et quand on commence le livre, eh bien, il vient de perdre sa femme Birgit, qui est l'amour de sa vie. Birgit qui s'enfonce dans l'alcool et qui un jour, il la retrouve un soir, morte dans sa baignoire. Alors Birgit, elle venait de la RDA et en 1964, lors d'échanges entre étudiants entre l'Est et l'Ouest, ils sont tombés amoureux et Caspar va se débrouiller à l'époque pour la faire passer à l'Ouest en 65. Ce ne sera pas une mince affaire, mais ils vont partager un grand amour ensemble. Ils vont partager l'amour des livres, l'amour de la musique. Ils n'auront pas d'enfants. Et pourtant, la fin de vie de Birgit va être plus difficile parce qu'elle va se chercher tout le temps. Elle va être marquée par la dépression et par un net penchant pour l'alcool. Et donc, quand elle va mourir, Caspar va se mettre à faire un petit peu des recherches dans ses papiers. Il est totalement perdu, désespéré, il est brusquement veuf et il va découvrir un secret puisqu'il va découvrir qu'il y a très longtemps, Birgit a abandonné une petite fille à sa naissance et finalement, il comprend que cette fille qui a tout à fait été cachée par Birgit est peut-être aussi une des raisons pour laquelle Birgit ne s'est jamais donnée totalement dans son amour pour Caspar, puisqu'elle a toujours gardé ses secrets qui ont fini par la miner. Et donc, Caspar va débuter énergiquement la recherche de cette petite fille, enfin qui n'est plus tellement petite, et il va découvrir donc la fille de Birgit qui s'intitule Svenja, a une petite fille Sigrun, et donc Svenja, la fille de Birgit, a malheureusement évolué dans un milieu néo-nazi puisqu'elle s'est mariée à un homme qui appartient au mouvement haineux Le Völkisch, et donc Sigrun, sa petite fille, est élevée dans un environnement d'extrême droite, dans le culte du Troisième Reich et dans la volonté de rendre à l'Allemagne sa grandeur. Alors avant tout, j'aimerais un petit peu parler avec vous de nos invités, de Caspar. Se joue une relation très agitée et affectueuse entre Caspar et la petite fille qu'il essaye finalement de retrouver, qu'il essaye de ramener vers la raison parce que malheureusement cette petite fille vit dans un monde complètement fermé, dans un monde de néo-nazis où il n'y a pas de place pour l'art. Et c'était justement à travers les livres, la musique, l'art qui va essayer d'apporter un peu d'oxygène et un moyen à cette petite fille d'apprendre à réfléchir par elle-même et à parvenir à prendre distance envers l'embrigadement justement extrémiste où ses parents l'ont éduquée. Je vous laisse un petit peu la parole à tous les deux.
Indépendamment du fait que je trouve que c'est un livre absolument remarquable, il y a longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi puissant que celui-là, qui est un petit peu conduit, en tout cas toute une partie est conduite comme un roman policier, où on va de découverte en découverte. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé dans ce livre. Et la première des choses est la manière dont Caspar va ouvrir les yeux de cet enfant sans jamais lui dire ce qu'elle doit regarder, mais en lui posant des questions sur ce qu'elle regarde. Et ça, c'est d'une intelligence qu'on aimerait retrouver beaucoup plus souvent, demander à un enfant pourquoi il professe certaines idées, pourquoi il regarde dans un certain sens, que l'enfant l'explique et il l'ouvre à un autre monde, essentiellement par la musique, plus encore que par les livres, puisque cet enfant va se découvrir un talent de pianiste insoupçonné. Je te laisse la parole, David.
Non, mais je suis assez d'accord. Mais pour rejoindre Yves, moi, ce qui me frappe dans le roman, c'est qu'il n'est pas... Il n'est jamais didactique. Donc, la culture, l'art, le progressisme, les valeurs humaines sont traitées au même stade que le néo-nazisme. Ça pourrait paraître provocateur, mais on n'est pas dans la culture, c'est très bien, le néo-nazisme, ce n'est pas bien. Le néo-nazisme est traité comme quelque chose qui existe. Et donc ça existe, donc c'est là. Et donc ça veut dire qu'il y a des idées monstrueuses, il y a des hommes monstrueux, mais ce ne sont pas des monstres, c'est une réalité qui est là. Et quand Yves dit, au fait Yves dit que le grand-père ne dit pas « ne fais pas ça, mais fais ça », non, fais ce que tu fais, mais je te donne un dessert en plus. Et ça, je trouve magnifique, parce qu'alors ça appartient à la personne. Bon, le grand-père insiste un peu, il fait plus qu'un cadeau, mais ça appartient à chacun d'avoir la possibilité de s'ouvrir. Mais si on force cette ouverture, on ne s'ouvre pas, quoi. Et ça, c'est magnifique.
Mais je crois que c'est aussi la force de Bernard Schling qu'on retrouve aussi dans ses différents livres, c'est qu'il n'y a jamais de jugement, c'est-à-dire qu'il pose les choses, les faits comme ils le sont. Comme tu dis, il parle de cette famille qui est d'extrême droite, il parle de ses convictions, mais il n'y a pas de jugement, il laisse faire.
Et pourtant, il est juriste. Hein.
Et pourtant, il est juriste, exactement.
Mais c'est peut-être pour ça. Hein.
Exactement.
Il a une intime conviction tout de même en tant que juriste.
Oui, oui, totalement.
Mais c'est la façon dont tout cela est conduit. Parce que lorsque la petite fille va venir pour la première fois passer une semaine avec lui à Berlin, il lui a préparé tout un programme. Et puis il va l'accueillir de surcroît dans sa librairie où elle va découvrir qu'il y a une autre littérature que la littérature néo-nazie. Et quand il va l'emmener écouter un concert, elle est absolument subjuguée. Et il va lui permettre de prendre des leçons de piano avec un de ses amis qui, si mon souvenir est exact, le professeur de piano est juif, justement. Donc, elle se rend compte qu'un juif, ce n'est pas nécessairement ce qui lui est décrit dans l'idéologie parentale.
Ça m'a fait penser, ce que Yves raconte, et j'avais eu cette réflexion, les chiffres d'extrême droite à Anvers, alarmants, sont beaucoup plus hauts dans les banlieues riches à Anvers, où on ne voit pas d'étrangers. Donc le danger, et là le roman, je trouve qu'il est contemporain aussi, il parle d'aujourd'hui aussi, même s'il est très allemand dans l'époque et tout ça, mais l'extrême droite, c'est un peu, quand on va dans une banlieue aisée à Anvers, il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas le programme dont traite l'extrême droite. Mais les chiffres d'extrême droite sont hauts. Pourquoi ? Parce qu'on est enfermé dans sa bulle, dans son fantasme, qu'on ne connaît pas l'autre. Ça m'a fait penser à ça, c'est que si on ne découvre pas qui est l'autre, on ne peut pas juger l'autre. Donc on ne peut pas prendre une position sur l'autre. Et c'est là le danger de la bulle de l'extrême droite.
Mais il y a un refus de découvrir l'autre de la part des parents de la petite fille. Et justement, cette face à ce refus que le grand-père joue un rôle absolument essentiel, puisque lui, il lui permet de voir autre chose. Mais ce que tu dis à propos d'Anvers, c'est strictement l'inverse en France. Dans les campagnes où ils n'ont jamais vu un immigré, le vote Rassemblement National est absolument monstrueux.
C'est-à-dire le candidat
passe parfois au premier tour, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un étranger.
Non,
ils n'en ont jamais vu.
Moi, ce qui m'a plu par hasard dans ce livre, c'est que finalement, malgré toutes ces différences, c'est l'art qui finit par réunir tous ces milieux différents. Et finalement, encore une fois, comme dans Le Liseur, où là, dans ce cas, c'était la lecture, ben là, c'est la musique, mais c'est l'art qui permet d'unifier et d'effacer finalement toutes les idéologies, toutes les différences. Et ça, je trouve qu'il réussit brillamment à le montrer, que l'art peut encore sauver aujourd'hui l'humanité.
Oui, vas-y.
Oui, c'est pas effacer, c'est dépasser, ces clivages idéologiques, politiques. La manière dont il décrit les parents de la petite fille est une façon quasi clinique de décrire des personnages. Voilà, il y a ça. Faites-vous une idée, parce que le lecteur, finalement, est pris à témoin au même titre que la petite fille. Faites-vous une idée.
Oui, c'est vrai.
Même si il est tout à fait clair que la sympathie de Schlink ne va absolument pas un seul instant vers l'extrême droite, c'est plutôt un centriste de gauche. C'est un homme très paisible, donc qui est surpris par la violence. On le voit très bien à la fin de l'ouvrage. Moi, je trouve que c'est un bouquin absolument remarquable.
Oui, absolument.
C'est un livre aussi qui donne goût de visiter, parce qu'on en avait parlé, Yves et moi, qui donne goût aussi de visiter l'Allemagne, parce que la façon dont il décrit Berlin aussi, dont il raconte finalement les différences entre l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, entre les frustrations finalement, le chômage qui sont liés à l'Est et qui ont finalement fait que soient nés des mouvements d'extrême droite. Et puis, d'un autre côté, l'Allemagne de l'Ouest qui n'a cessé d'évoluer. Il montre très très bien, en fait, il explique très bien ces différences qui finalement compose le même pays, mais voilà, c'est le même pays et pourtant tellement différent. Et puis, il nous fait quand même aimer ce pays dans les descriptions de la ville, dans les descriptions des immeubles, dans les descriptions des rues. Pour les gens qui ont été à Berlin, ça parle, je dirais.
Oui, enfin, c'est un livre actif qui donne envie. Oui, ça donne envie d'aller à Berlin, mais ça donne aussi envie de
lire les autres ouvrages de Schlink.
ça donne envie de lire tout Schlink. Je trouve que c'est un livre très actif qui donne, comme il n'est pas didactique, il donne envie. Voilà, il y a quelque chose du désir qui naît. Ce n'est pas un livre où on se sent pris en otage par un didactisme. C'est quelque chose qui excite un peu, qui donne envie de faire des belles choses. Et pour revenir à ce que tu disais sur l'art, oui, c'est un livre sur l'art, parce que l'art a vocation.
L'art ou la culture.
Oui, la culture a vocation de poser question et de ne pas apporter de réponse, mais de poser question. Et donc, quand on pose des questions, ben, on peut continuer une sorte de mouvement sur les questions. Mais ce que j'avais envie de dire encore, parce que la discussion est plutôt sérieuse, C'est très bien, hein. Mais le livre est extrêmement accessible.
Oui.
C'est un livre qui est très...
que tout le monde peut lire.
Mais c'est un livre qui est très très facile à lire. Et Yves disait un élément, oui, il y a quelque chose du roman policier. Et il y a la langue aussi qui est très facile, parce que voilà, on peut...
C'est admirablement traduit.
C'est sans doute très très bien traduit. Mmh. Et voilà, ce n'est pas un livre où tu dois avoir, on en parlait, tes deux dictionnaires à côté. C'est quelque chose d'assez facile, comme une, Oui, c'est un peu une série où chacun peut y voir les profondeurs qu'il souhaite voir. Donc c'est très, très, très accessible.
Et c'est vrai qu'à mon avis, donc Caspar, le grand-père, doit être un personnage, sans doute, mais ça, ce n'est que mon impression. Il est très attachant, c'est une figure qui ne juge pas. Et j'ai l'impression que c'est une figure qui pourrait être peut-être l'alter ego de Schlink.
C'est probablement Schlink lui-même.
Exactement.
Oui.
Exactement. Et puis, comme tu dis, cette écriture de Schlink aborde la question de la transmission de l'histoire allemande à travers les différentes générations. Et puis, à nouveau, on trouve ce thème qui est présent dans ses autres romans, c'est justement la question de l'identité.
Oui, mais c'est une question, là, dans la petite fille, la question de l'identité est une question centrale, parce qu'en fait, les parents... Donc la fille de Birgit et son mari ne trouvent une identité que par leur engagement politique. Mm-hmm. Par eux-mêmes, on a l'impression qu'ils n'en ont pas. Mm-hmm. Et ils sont vraiment lamentables sur un plan éducatif parce qu'ils enseignent une idéologie à leur enfant, sans dire à cet enfant qu'il y a d'autres choses. Il y a cette scène où le père agresse très méchamment le grand-père parce qu'il a trouvé dans la valise de sa fille un livre dont mm-hmm. le titre m'échappe maintenant, mais qui raconte le parcours d'une jeune fille elle aussi élevée dans le culte du nazisme et qui, s'ouvrant sur autre chose, mm-hmm. Va abandonner ses parents, en tout cas les pensées de ses parents. Et il est persuadé que c'est le grand-père qui a glissé le bouquin dans la valise de la petite fille. Alors qu'en fait... Il a la possibilité de dire que ce n'est pas lui. Le grand-père ne dit rien. Et l'enfant, à un moment donné, va dire elle-même que c'est elle qui a glissé le livre dedans. Parce qu'elle s'éloigne de plus en plus. La rencontre avec le professeur de piano, qui est beaucoup plus suggérée que décrite, est très certainement le tournant même de l'éducation de cet enfant, parce que elle est face à quelqu'un qui est supposé faire partie de la race du diable. Et subitement, elle se rend compte que ce n'est pas vrai, qu'elle vit dans le mensonge. Et c'est quelque chose... La manière dont le grand-père ouvre les yeux de cet enfant, moi, je trouve que ça a quelque chose de tout à fait bouleversant et d'une intelligence qu'on aimerait rencontrer plus souvent.
Oui, mais bon, voilà, véritable chef-d'œuvre. Je me suis posé la question hier, mais comme dans les grandes œuvres, de quoi ce livre ne parle pas ? Au fait, moi, quand je suis face à une œuvre comme ça, voilà, y a l'identité, l'amour, la mort, la transmission, l'argent, la justice. Enfin, de quoi ce livre ne parle pas ? Ce livre parle de tout, très, très, très simplement. Donc, on est face à un grand chef-d'œuvre.
Grand bouquin.
Et moi...
Et accessible à tous.
Accessible à tous, même à 14-15 ans. Mm-hmm. Y a quelque chose de cinématographique, de policier.
Mais il y a même quelque chose où il explore aussi les ressorts psychologiques des comportements humains. Parce que, comme tu le dis, on voit d'un côté les parents de Sigrun, qui sont... voilà, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Puis d'un autre côté, le comportement, l'aspect psychologique du grand-père qui se remet en question, qui remet en question sa relation aussi avec Birgit, qui ne s'est jamais donnée entièrement à lui, puisqu'elle lui a caché tout un pan de sa vie. Donc il y a plein d'aspects qui sont abordés dans ce livre.
Oui, tout est abordé.
D'autant plus que l'abandon de l'enfant a lieu à un moment où ils sont déjà amoureux l'un de l'autre. Caspar n'a pas vu qu'elle était enceinte parce qu'elle raconte que ça s'est vu tardivement. Et c'est à un moment où ils sont transitoirement séparés, avant qu'elle ne gagne l'Ouest, qu'elle va abandonner cet enfant. Et cet enfant, en fait, elle comprend qu'elle a été utilisée par le père de l'enfant comme une mère porteuse. Mmh. Ce sont des moments difficiles dans ce bouquin, mais ce que tu disais, David, moi je suis absolument d'accord. C'est à lire à n'importe quel âge et c'est même, je trouve, un bouquin pour l'adolescence.
Oui, parce que je trouve que c'est rare de la profondeur qui soit accessible. Et moi, ça me fait penser. Ça m'a donné envie de relire des choses que j'ai peut-être. Ben, là, je le dis maintenant, que j'ai peut-être relu trop tôt. Mm-hmm. J'ai beaucoup lu Dostoïevski à 18-19 ans, mais ça m'a donné envie de relire des choses. Il y a comme ça des livres. Et ce livre deviendra...
Il restera.
Je ne serai plus là, mais ce livre deviendra un classique de la littérature. Et je prends aussi le pari, ça c'est autre chose, que dans les 10 ans, il sera adapté au cinéma parce qu'il y a quelque chose de l'accessibilité qui ferait du bien pour atteindre un public encore plus large.
Vous l'aurez compris, c'est un livre qui parle à toute génération confondue et qu'on conseille même aux étudiants et surtout aux professeurs de conseiller à leurs élèves de lire ce livre. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre livre. Merci Yves.
Merci Anne.
Merci David.
Merci.
Et à la semaine prochaine.